Comment raconter l'époque de manière originale et amusante et comment en même temps nous faire réfléchir sur ce que nous vivons? Pour cela, dans son dernier numéro de l'année, un numéro double traditionnellement, le magazine Marianne a fait le choix de la fiction, de l'Uchronie précisément. C'est un genre littéraire, un genre journalistique dont le principe est de réécrire l'actualité et l'histoire. Un genre qu'on pourrait résumer en deux mots, et si, par exemple, et si Jean-Luc Mélenchon s'était qualifié pour le second tour de la présidentielle en 2017? Et si l'Algérie était restée française en 62? Voilà deux des 50 textes que publie Marianne aujourd'hui en partenariat avec Europe 1, des textes rédigés par des écrivains, des historiens et des journalistes. Bonjour Perico Legas.
Bonjour Philippe.
Vous êtes l'un des rédacteurs en chef de Marianne. Question basique, pourquoi avoir choisi des uchronies pour terminer et pour résumer l'année et non pas des histoires réelles?
Alors, qui aurait cru qu'au Noël de l'année 2020, on irait à 6 pour le réveillon de Noël et que celui de la Saint-Sylvestre serait avec un couvre-feu à 20h? C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que finalement tout peut arriver. Les situations les plus incroyables, les hypothèses les plus folles deviennent quelquefois la réalité. Et du coup on s'est dit, et si on allait plus loin, si on réécrivait l'histoire? C'est vrai qu'on met Paris dans une bouteille, mais c'est l'occasion de libérer les imaginations, d'envisager des situations les plus folles et de dire après tout finalement, il y a le possible, il y a le plausible. Et ben les uchronies, alors il y en a certaines qui sont très sérieuses, ce sont des scénarios qui auraient pu se produire. Il y en a d'autres qui sont totalement folles, totalement inventées, voilà, totalement loufoques. Mais on voit bien qu'on est dans un monde aujourd'hui où tout est possible, tout est permis, et bien finalement c'est peut-être une mesure du raisonnable que de dire une uchronie, voilà ce qui aurait pu se passer si telle circonstance était produite de telle façon, si la conjoncture avait été différente. Il suffit quelquefois d'un écart d'une heure dans l'histoire, d'une rencontre, le rôle du hasard énormément, et donc ça permet d'ouvrir des perspectives. Alors quand on a des journalistes, des écrivains qui s'y mettent et qu'on leur a dit lâchez-vous, on a des choses absolument admirables, il y a des choses plus tristes, plus trash, plus sérieuses. Et puis on voit bien que finalement, eh bien, toutes les portes sont ouvertes à des hypothèses les plus incroyables, et c'est ce qu'on a voulu démontrer.
Alors on va voir ce que ça permet de dire que de faire des uchronies. Est-ce qu'en préparant ce dossier uchronie, justement, à un moment donné, vous n'êtes pas dit, attention, compte tenu de la popularité des thèses complotistes, il ne faut surtout pas que nos sujets prêtent à confusion, que la parodie devienne de proche en proche une réalité dans l'esprit de certains?
C'est le meilleur instrument anti-complot.
Ah bon?
Que de dire, ben oui, en disant, regardez, vous commencez comme ça, mais on peut aller partout. Donc ça ne tient pas la route. Il y a une rationalité des choses, il y a une cohérence des faits, il y a un ordre des événements qui se produisent, et le complot, on voit bien, c'est quand on extrapole à partir d'un élément isolé, on crée une théorie. Et ben là, on a dit, voyez, vous voulez du complot, on va vous en mettre partout. Donc en fait, on démonte le complot, on désarçonne le complot, et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a deux façons de lire l'actualité, soit on s'en tient aux faits avec du rationalisme cartésien français, soit on laisse libre cours à son imagination, et là, on part dans la thèse du complot. C'est une parfaite action de rationalité que de dire l'Uchronie peut vous expliquer que les choses peuvent être différentes.
Avant de nous intéresser à des histoires en détail, une question générale. Vous abordez la politique, les sciences, la santé, l'histoire, la société, le sport, l'économie, bref, tous les domaines de l'actualité. Vous les avez choisis comment? Qu'est-ce qui a guidé vos choix?
On s'est réunis au départ, Natacha Polony a lancé l'idée. Alors elle a mûri dans la tête des journalistes.
Qui dirige Marianne actuellement.
Bien sûr, qui dirige Marianne actuellement. Évidemment, on était devant un univers tellement gigantesque, mais veut dire les possibilités étaient tellement variées qu'on s'est dit bon. Et puis on a pris un acte de cohérence. On a dit on va trancher par thématique. Et là, chacun s'est placé, chaque journaliste et puis nos invités, les gens qui ont collaboré à l'extérieur. Très vite, des gens ont dit, mais moi, alors, on a évacué des uchronies qui auraient été très classiques, genre, et si à Waterloo, Napoléon n'avait pas envoyé, ou si Napoléon avait gagné Waterloo. Ça, ce sont des choses qui ont déjà été écrites, qui ont déjà été vues. On a essayé de choisir des uchronies qui n'avaient jamais été abordées, qui n'avaient jamais été envisagées, et finalement, la masse des rédacteurs, on a quelques plumes formidables, et bien on est arrivé à faire un espèce de magma, une confiture incroyable, où ça va dans tous les sens, et on a une variété d'imagination et d'idées qui est tout à fait saisissante.
Puisque vous parlez de grands écrivains, on va citer Serge Joncourt, justement, premier cas, premier exemple, le vaccin contre le Covid. On sait qu'il existe, mais il y a encore quelques mois, rien n'était gagné. Mathieu Bellard, on va l'entendre, il recevait à ce micro, il présente la matinale le 7-9 sur Europe, il recevait le président de Sanofi France, c'était en juin dernier sur Europe 1.
Est-ce qu'on est sûr qu'on va trouver un vaccin contre le coronavirus?
Nous, on a vraiment le sentiment qu'on trouvera un vaccin, que ce vaccin sera efficace. Il faut qu'on travaille sur les doses, il faut qu'on travaille sur les schémas d'administration.
Et vous, à Marianne, vous demandez, et si on avait appris qu'il n'y avait pas de vaccin? C'est justement l'écrivain Serge Joncourt qui répond à cette question terrifiante et qui imagine donc ce qui se serait passé sans vaccin. En résumé, un drame.
un drame. Alors en plus, on apprend que le vaccin peut aller aux animaux et donc pour venir de l'animal domestique vers l'homme. Et là, on assiste
le à... Le virus, vous voulez dire.
Le virus, ouais. Pardon. Ouais, ouais, le virus peut aller à l'animal et peut revenir vers l'homme. Panique générale, extermination de tous les animaux de compagnie, le toutou, le caniche, les chats, chasse aux zoos, enfin voilà, il n'y a plus un seul animal de compagnie, et on est dans une situation de panique totale, super confinement, et c'est l'inverse de ce qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'avenir, et on repense le monde, avec pas de vaccin, comment on peut vivre avec le virus, sachant qu'on va l'avoir en permanence. Et la situation, évidemment, je ne révèle pas, on est dans le cauchemar.
On parlait des complotistes tout à l'heure, qu'est-ce que cette interrogation et la réponse apportée permettent de dire ? Avec cette uchronie.
Cette uchronie permet de dire que, effectivement, on aurait pu ne pas trouver de vaccin. D'ailleurs, il y a une polémique très forte sur les vaccins. Il y a des gens qui y croient, qui n'y croient pas. Mm-hmm. C'est évident. Et que malgré tout, il y a toujours une situation qui se met en place. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, l'humanité arrive à réagir. Alors, ce sont des scénarios, évidemment, ouais, imaginaires. Mais on voit bien qu'il y a toujours une forme d'installation de pouvoir qui s'installe, une crainte qui domine. Et malgré tout, l'humanité se réorganise.
Et Serge Joncourt se moque des complotistes, puisque dans son texte, les labos font semblant de ne pas trouver de vaccin. Les gens manifestent pour réclamer l'accélération de l'implantation de la 5G pour pouvoir plus facilement faire leurs courses en ligne. Les commerces n'ont pas à rouvrir.
Puisque c'est la consécration de notre monde aujourd'hui qui est totalement numérisé. Plus aucun contact humain, plus de rapports, plus de transport, plus de voyages. Tout le monde est confiné totalement chez soi. Enfin, on finit par venir des cortex dans un bocal et on ne vit plus qu'en appuyant sur des touches pour commander son chocolat le matin. Ou voilà, et on bouge plus, on fait plus rien. Voilà.
J'ai entendu dans la même phrase cortex, bocal, banania. Vous avez fait ma journée, Perico Légas. Vous restez avec nous en compagnie de Perico Légas, rédacteur en chef, l'un des rédacteurs chefs, la rédaction de Marianne, l'hebdomadaire. C'est un numéro double de fin d'année. Il est surtitré et si c'est un numéro spécial Uchronie, que se serait-il passé si, par exemple, tiens, c'est notre second exemple du jour, les gilets jaunes. Macron, démission, crie les gilets jaunes qui marchent sur l'Elysée. Et s'ils avaient effectivement pris l'Elysée, là c'est Didier Deninx, grand auteur de Polar, qui imagine ce qu'aurait pu se passer s'ils étaient réellement entrés à l'Elysée le 1er décembre 2018 avec une chute émouvante. Qu'est-ce que dit Didier Deninx de ce que nous vivons aujourd'hui ? Que dit son texte de notre époque ?
Il n'y a que lui qui pouvait l'imaginer, et on est vraiment dans un scénario de Polar, mais avec un sens des réalités. Et lorsque on progresse dans la lecture du texte, les manifestants sont là, Champs-Élysées, les barrages de CRS sautent les uns après les autres, la panique, le QG prévient l'Élysée, Monsieur le Président, là on n'arrive plus à contrôler la foule, il rentre dans l'Élysée par tous les côtés, Macron est avec son gouvernement, ils ne savent pas quoi faire, est-ce qu'ils vont se mettre dans le bunker, pas dans le bunker, on peut faire prisonnier, et Édouard Philippe voit une camionnette Hélice, vous savez, pour le linge.
Oui.
Ils se foutent tous dans la camionnette Hélice, c'est Elisabeth Borne qui prend le volant, on s'enfuit de Paris, ouais chouette, on est arrivé, manque de bol, ils arrivent dans une station de service du nord de la France, et là il y a Drouet, Éric Drouet qui est là, qui les reconnaît.
Le gilet jaune.
Comment on a reconnu Louis XVI à Varennes, et ils sont tous pris. Et alors là, on a la décomposition totale de l'État, démission de Macron, nouvelle campagne, redistribution des cartes, campagne électorale incroyable, tout le monde sort toutes les hypothèses d'aujourd'hui d'ailleurs.
Et là je vous arrête, racontez pas la fin.
Non, je vous dis juste qu'il y a un enseignant des Yvelines de Conflans-Sainte-Honorine.
Oh bah, n'en dites pas plus.
Qui va être élu président de la République. Mais je raconte pas plus. Voilà.
Sauf qu'on n'était vraiment pas loin. Ce qu'on raconte là, c'est pas une élucubration. Ils auraient pu marcher sur l'Élysée. Et la question s'est même posée. Et si le président se réfugiait dans le bunker, il était fait prisonnier de fait, malgré lui.
Alors, la réalité des faits, ce fameux jour où ça a failli basculer, où on a vu en tout cas que le pouvoir a eu peur. Et on a su que le pouvoir avait vraiment eu peur, puisque on lâche pas de 17 milliards dans la nature si on n'a pas eu très 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 peur. Ouais. C'est clair qu'à un moment donné, la République a failli vaciller. Alors, ça ne serait pas allé peut-être jusqu'au bout, parce qu'il y avait quand même un système d'ordre et de protection de l'Élysée qui aurait empêché, mais on sent que la République est fragile et que un régime aussi stable qu'il soit peut, par un mouvement de masse, par un mouvement de foule qui est dans l'exaspération, peut arriver à des extrêmes. Et là, c'est parfaitement présenté par Deninx, qu'on voit bien que on était peut-être à pas deux doigts de la catastrophe, mais à trois doigts.
Troisième exemple qu'on trouve dans Marianne, je le montre à la caméra, vous pouvez nous voir sur europe1.fr, et si Internet n'existait pas, et là c'est un article dans lequel on sent beaucoup de nostalgie, on écrit des lettres qui mettent du temps à arriver, on a le temps de lire, on a le temps de voyager, on a le temps de faire attention à ce qui se passe autour de soi. Est-ce que c'est une manière de dire c'était mieux avant ?
Délicieux papier de notre collègue et confrère journaliste à Marianne, Vladimir de Gmelin, qui est un spécialiste des grandes causes. C'est un baroudeur. Mmh. Hein. Et il imagine cette époque, tout simplement, il n'y aurait pas Internet. Ouais. Et c'est vrai que souvent dans les conversations, on se dit vous-même, mais comment on aurait fait quand il n'y avait pas de portable, quand on n'avait pas de numérique? Eh bien, la vie continue.
Oui, mais quand on dit ça, on dit que ce n'était pas mieux avant. Mais vous-même, quand on lit le papier, il y a de la nostalgie, on se dit c'était. Vous pensez quoi, vous, Péricolégas?
Mais je vais vous dire la vérité, et je ne suis ni un nostalgique, ni un rétrograde, ni un passéiste, ni un conservateur. On retrouve une humanité à visage humain. On s'écrit, on envoie des cartes postales, donc on est obligé de savoir écrire. On peut disparaître dans la nature, en Birmanie ou Kamtchatka. On ne donne pas de nouvelles pendant 3 mois. On court après une cabine téléphonique, on essaie d'avoir un télégramme, et on communique encore, j'allais dire, au rythme de la vie, au rythme de la planète. On ne transgresse pas les normes de l'espace-temps, comme on est aujourd'hui en train d'essayer de les transgresser. Ouais. Et on maintient des relations équilibrées, humaines. Et quand on se retrouve après s'être pas vu pendant un certain nombre d'enfants, qu'on trouve la famille, les enfants, on s'embrasse, parce que finalement, on était loin des autres. Le numérique, il éloigne tout en rapprochant. Et là, on retrouve vraiment des gens dans la réalité de la vie.
Si Mitterrand n'avait pas pris le tournant de la rigueur, si le Québec avait dit oui à l'indépendance, deux exemples encore du chronique politique, sur des thèmes qui sont souvent abordés chez Marianne, le souverainisme, c'est aussi une manière amusante de faire passer les idées que vous défendez.
Alors, on s'est fait plaisir à imaginer, parmi les journalistes de la rédaction et parmi nos invités, on s'est fait plaisir à imaginer des scénarios qui correspondaient à nos ambitions, à nos croyances, à nos convictions. Ouais. Voilà. Et on les imagine évidemment de façon positive. Quelqu'un d'autre aurait pu écrire cette même solution dans une version beaucoup plus triste. Mais c'est vrai qu'on a eu plaisir à imaginer, Séguin Premier ministre, une autre définition de l'Europe, une autre définition de la République, une autre définition de la laïcité, le Québec indépendant, eh bien je pense qu'on peut aussi se faire plaisir en espérant des jours meilleurs avec des Uchronies.
Là on parle beaucoup de politique, mais il n'y a pas que de la politique dans ce dossier Uchronie. Il y a ici les fils et filles ne suivaient pas leurs parents. On pense au cinéma, l'entreprise, à la politique, à plein de gens. Et si Toulouse-Lautrec avait été grand, il mesure 1m52, mais s'il avait fait 2m, peut-être qu'il n'aurait pas pincé le tableau.
Incroyable.
Et si Proust avait démarré la recherche par longtemps, je me suis couché très tard.
Ce sont des friandises. Ça vraiment, j'invite à aller lire. Voilà. Il y a des choses terribles. Si les enfants étaient devenus méchants, voilà, c'est un cauchemardesque. On sort traumatisé. Il y a de quoi, pendant ces 15 jours, puisque c'est un numéro double qui va durer 2 semaines, il y a de quoi l'acheter, on le lit petit à petit, et on a des émotions très fortes, puisqu'on ne pourra pas bouger de chez soi. Ouais. On sera dans le confinement avec des masques, et bien c'est une manière d'évasion. Vous savez, Georges Bernard Shaw disait,
j'adore,
la meilleure façon de s'évader de 4 murs d'une prison, c'est l'humour. Et bien là, ce dossier du chronique de Marianne, c'est une façon de s'évader du confinement et de se libérer l'esprit en imaginant des choses folles, mais aussi délicieuses.
J'ai un petit jeu pour vous, Péricolégas, spécifiquement pour vous. Une uchronie, que se serait-il passé si Christophe Colomb n'avait pas découvert l'Amérique?
Quel bonheur!
Ah bah non, vous auriez ni la tomate, ni le café, ni le chocolat.
Oui, mais les Indiens auraient vécu libre.
Mais d'accord, mais je pensais aux gourmets que vous êtes.
Eh ben écoutez,
et aux journalistes gastronomiques que vous êtes.
Je préfère renoncer à tous les délices et à toutes les merveilles qu'on a découvertes grâce à l'Amérique ensuite, ne serait-ce qu'à l'idée que les Aztèques et les Incas auraient pu continuer à développer leur civilisation et qu'on n'aurait pas massacré les Sioux et les Cheyennes.
À la fin du dossier, il y a une liste, celle des Uchronies que vous n'avez pas retenues. Il y a des questions souvent vachardes, très drôles, il y a celle-ci. Et si François Hollande avait été élu président de la République?
Ah, ça c'est quand même traumatisant.
Non mais il a été élu.
Oui,
comme ça. Non mais c'est juste drôle, il a été élu.
Ne nous faites pas peur, pas de panique.
Est-ce que ce numéro de fin d'année, numéro double, est celui qui réalise les vente?
En général, oui. Ouais. Ben, c'est normal. Et ensuite, en plus, non seulement il est numéro double, il est celui de la fin de l'année. Et depuis une quinzaine d'années, Jean-François Cohn avait initié une thématique un petit peu insolite, un petit peu à contre-courant pour développer, soit historique, soit sociologique, soit culturel, pour développer. Et surtout sur Internet. Alors, ce qu'on a fait, Natacha Polony a été très sévère. Elle a évidemment laissé la place aux invités de l'extérieur qui sont venus. Et il y a plein de journalistes de Marianne qui n'ont pas pu publier leur texte dans le print, dans la version papier. Ouais. Et on retrouvera sur Internet tout le reste. Il y en a aussi de merveilleuses et de délicieuses. Donc, il y a de quoi faire.
Ouf que Internet a été inventé. J'apprends rien à personne. La presse traverse une période difficile, compte tenu de la crise, et même déjà auparavant, avant même le Covid, et surtout la presse écrite. Comment se porte Marianne?
Marianne se porte très bien. Après avoir une période un petit peu de doute, après le départ de Jean-François Cohn, il y a eu un flottement, il y a eu une tentative de ralliement un peu sur des thèses plus social-démocrates, et là l'actuelle direction et toute l'équipe, parce qu'on est très soudés, on repart aux fondamentaux que Jean-François Cohn avait installés en 1997.
Les ventes,
voilà.
Les ventes, c'est combien?
Alors les ventes, nous sommes à 11% d'augmentation de la diffusion.
C'est assez rare pour signaler, parce que je précise, déjà maintenir ses ventes quand on a un journal papier, c'est déjà presque un exploit. Alors augmenter
plus 11% tant sur la version papier que sur le numérique qui se développe. On est aujourd'hui, selon les études de l'électorat, à 5 millions de lecteurs. Et c'est une dynamique croissante. On fait revenir les lecteurs qui étaient partis, qui s'étaient un petit peu désintéressés de Marianne. Et en repartant aux fondamentaux et à la ligne du journal, République, citoyenneté, laïcité, les valeurs, et voilà, ce à quoi on croit. Eh bien, nos lecteurs reviennent tout doucement. Et puis d'autres aussi. Et sur le numérique, évidemment, il y a aussi une très forte dynamique. On a une très belle équipe. Et là, je pense qu'on va pouvoir encore marquer des points en 2021.
Merci beaucoup, Perico Légas. Vous êtes rédac chef au sein de la rédaction de Marianne. Et si, c'est le numéro double de fin d'année, spécial Uchronie, stimulant, amusant. Et c'est en partenariat avec Europe 1. C'est en vente dès aujourd'hui. Merci encore d'avoir été avec nous.